Europe 1, il est 7h.
C'est dommage, on a l'impression de revoir les matchs de l'année dernière.
Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'ils avaient compris des autres années, mais je vois que non.
Incorrigible parisien, la Ligue des Champions serait-elle devenue leur pire cauchemar? Le PSG battu hier soir sur la pelouse de Dortmund, 2-1.
Formation des imams, financement des lieux de culte, Emmanuel Macron promet la vigilance de l'État pour lutter contre les influences étrangères en France.
Dans ce journal aussi, les pratiques fiscales des États-Unis et du Royaume-Uni pointées du doigt.
Et des progrès encore nécessaires en France pour que les femmes prennent leur place à la tête des grandes entreprises. Aujourd'hui, elles doivent être accompagnées pour s'imposer.
On a quand même de plus en plus de femmes qui montent les échelons grâce à ces conseils, parce qu'ils ont pris de l'assurance, etc.
Les femmes et les grandes entreprises, c'est le dossier de la rédaction dans ce journal à suivre.
Une peau imprimée en 3D, bientôt réimplantée sur des patients. Innovation technologique à Marseille qui devrait profiter aux grands brûlés notamment.
Cette technique est celle qui pourra certainement nous donner la peau la plus proche de la peau humaine. Et c'est notre espoir bien sûr, c'est une révolution.
Europe 1, 7h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Le monde bouge, mais pas le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ont débuté hier la phase éliminatoire de la compétition sur une défaite.
Score final 2-1 sur la pelouse de Dortmund pour ce 8e de finale aller. Les Parisiens comme tétanisés hier soir aux grandes dames de ses supporters rencontrés par Julien Froment pour Europe 1.
Pas bon du tout, ils n'étaient pas dans le match. Le mental n'était pas là.
Les supporters parisiens sont dépités, ils n'ont pas reconnu leur PSG. Très peu d'occasions, des attaquants fantomatiques, une défense fébrile, un manque criant d'initiative et l'impression que l'histoire se répète encore et encore.
Ils n'en voulaient pas, ils n'avaient pas la niaque. C'est dommage, on a l'impression de revoir les matchs de l'année dernière.
Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'ils avaient compris des autres années, mais je vois que non.
Même constat pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, qui n'a pas reconnu ses joueurs.
On a joué avec trop de peur de faire une erreur, et c'est pas bien. Et si tu penses trop des erreurs arrivent.
2-1, ce n'est pas un résultat insurmontable, une victoire 1-0 au Parc des Princes le 11 mars prochain peut suffire, mais il faudra le faire sans Thomas Meunier ni Marco Verratti suspendu et surtout avec un Neymar passablement énervé, la star brésilienne en manque de rythme hier soir. On veut au staff technique de l'avoir mis de côté pendant 4 matchs pour une blessure bénigne. Une polémique que Paris risque de traîner pendant plusieurs jours. Pas l'idéal pour préparer le match retour. Dortmund, Julien Froment, Europe.
Bonjour Alain Roche.
Bonjour à vous.
Vous êtes le consultant foot d'Europe 1. Une défaite, le mécontentement de Neymar dont vient de parler Julien Froment. C'est pas très serein tout ça quand même pour préparer le match retour du 11 mars prochain.
C'est clair, on s'attendait à beaucoup mieux du Paris Saint-Germain hier soir. Ce match était attendu par tout le monde, hein, par les supporters, par les joueurs aussi. Mais c'est vrai que le schéma tactique mis en place par Thomas Tuchel et les disparités physiques de certains ont posé des gros soucis aux Parisiens hier soir et cette défaite est logique. Maintenant, l'espoir est là, hein, puisqu'à match retour, on aura des joueurs comme Neymar bien mieux physiquement et sûrement une équipe du PSG bien plus revancharde.
Oui, il faut quand même relativiser tout ça, Alain. Une défaite 2-1 à l'extérieur, d'abord, c'est plutôt bien payé vu la prestation des Parisiens. Et puis, c'est pas rédhibitoire. Une victoire 1-0 au Parc, c'est faisable ?
C'est faisable. Les années précédentes, on avait le club du PSG avait gagné à l'extérieur et perdu à domicile. Là, c'est pas le cas. Il y a une défaite à l'extérieur. Il y a tout à faire à domicile, il faudra prendre des risques, réfléchis bien sûr, dans un système qui sera sûrement différent avec 4 attaquants. Cette tactique est mise en place par Thomas Tuchel depuis des mois, et personne, et c'est incompréhensible même qu'il ait changé pour ce match-là. Mais voilà, en face à une bonne équipe, qui est toujours là dans les joutes européennes pour aller loin, et il a prouvé hier soir que c'était une très bonne équipe à domicile, qui pouvait poser beaucoup de problèmes. Maintenant, le PSG a du talent, et à domicile est capable de renverser beaucoup de situations, et c'est ce que les supporters vont attendre.
L'analyse d'Alain Roche, consultant foot d'Europe 1, en direct ce matin après cette défaite 2-1 hier soir des Parisiens contre le Borussia Dortmund.
Europe 1, il est 7h04.
Une tentative de diversion pour Jean-Luc Mélenchon, une réponse insuffisante pour le sénateur LR Bruno Retailleau. Réaction aux mesures annoncées hier à Mulhouse par Emmanuel Macron pour lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste.
Le détail de ces mesures avec Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1.
Pour lutter contre le séparatisme, le premier objectif d'Emmanuel Macron,
c'est de reprendre le contrôle et de lutter contre les influences étrangères.
3 premières mesures dévoilées hier. D'abord l'éducation avec la fin, dès la rentrée prochaine, des ELCO, ces professeurs de langues étrangères envoyés par des pays étrangers au sein de nos écoles.
Nous avons de plus en plus d'enseignants qui ne parlent pas le français, sur lequel l'éducation nationale n'a aucun regard.
Ce dispositif mis en place il y a 40 ans concerne 80 000 élèves par an. Sujet plus délicat encore, l'islam de France. Le président promet de mieux contrôler le financement des mosquées.
On a besoin de savoir d'où vient l'argent, qui le touche, pourquoi faire.
Et de revoir la formation des imams. La France n'accueillera plus de prédicateurs envoyés par des pays étrangers.
Aujourd'hui, on a 300 imams détachés. Nous allons progressivement ne plus en faire venir de nouveau. En parallèle de ça, c'est former des imams en France pour qu'ils puissent maîtriser la langue et les lois de la République.
Pour Emmanuel Macron, réduire l'influence extérieure dans les quartiers permettra de limiter les communautés qui ne se reconnaissent plus dans la République. Au travers de ces mesures, la France pointe notamment la Turquie. Au risque de se froisser avec Ankara, Emmanuel Macron a martelé.
On ne peut pas avoir les lois de la Turquie sur le sol de France.
Mulhouse, Jean-Rémy Baudeau, Europe 1.
Et dans l'enquête sur la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux, les mises en examen hier soir de Piotr Pawlinski et de sa compagne, tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se voir et de se parler. L'artiste russe de 35 ans assume une nouvelle fois son geste, revendiquant un art politique. « Je suis content d'avoir fait ça », a-t-il dit à sa sortie du tribunal.
L'inquiétude de toute une filière et de toute une région, les producteurs de tomates bretons aux aguets, alors qu'un premier cas de virus de la tomate a été repéré dans le Finistère.
Un plan de surveillance devrait être mise en œuvre. En attendant, les producteurs des environs de Brest souhaitent se faire discrets. Reportage pour Europe 1 de Charles Guyard.
C'est l'Omerta au pays de la tomate. Avec 700 hectares et plus de 3500 emplois directs, la Bretagne est une place forte de la filière. Un tiers de la production hexagonale vient d'ici. Alors quand un virus est détecté, comme c'est le cas dans une exploitation du Nord Finistère, d'une serre à l'autre, c'est silence radio. Ingénieur agronome à Châteaulin, près de Brest, Stéphane Corr explique pourquoi ce microbe se répand très vite.
La problématique dans nos techniques de production en serre de tomates, c'est qu'on a des plants qui sont relativement proches l'un des autres. L'arrosage, en fait, pourrait très vite transmettre ce virus-là par les racines, par la fertilisation ou par le contact de personnes qui pourraient toucher un plant avec leurs mains, n'ayant pas été désinfectées, pourrait en fait provoquer la dissémination dans une serre entière. Et le simple fait que cette personne aille d'une serre à l'autre pourrait transmettre directement le virus.
Un virus qui, selon un professionnel du secteur, pourrait se cacher d'abord dans les graines élaborées en Amérique du Sud, peut-être au Pérou. Ce même professionnel qui a mis en place son propre protocole depuis le printemps dernier s'étonne d'ailleurs qu'aucune mesure n'ait été prise en France alors que les tobamovirus sévissent en Europe depuis 2018. Brest, Charles Guyard pour Europe 1.
La Bretagne où est rentré un couple de retraités qui effectuait une croisière à bord du paquebot Westerdam. Ce navire débarqué au Cambodge et dont les passagers sont suivis à la trace après la confirmation d'un cas de coronavirus.
Eux assurent aller très bien. Ils ont eu pour consigne de rester chez eux.
Le zéro pointé du CAC 40 depuis qu'Isabelle Kocher a été débarquée de son poste à la tête d'Engie au début du mois, il n'y a plus aucune femme à la tête d'un de ces grands groupes.
Et ce n'est pas mieux au sein du SBF 120 qui regroupe les 120 plus grandes entreprises cotées en bourse. Les dirigeantes sont à peine une dizaine. On a voulu comprendre pourquoi ce matin et on va le faire avec vous. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour Mathieu.
Comment est-ce qu'elle s'explique cette sous-représentation des femmes ?
Eh bien, vous connaissez le proverbe qui se ressemble s'assemble. Eh bien, une DRH me racontait que c'est exactement comme ça que ça se passe dans les grandes entreprises. Elles sont majoritairement dirigées par des hommes qui, lorsqu'ils vont recruter, eh bien, vont se tourner vers leurs semblables. Et puis, autre blocage d'importance, il y a très peu de femmes dans les comités exécutifs aujourd'hui, qui sont pourtant les antichambres du pouvoir. C'est là qu'on va venir piocher les futurs patrons. Il y a moins d'un membre sur cinq qui est une femme, et celles qui y parviennent sont souvent cantonnées à des missions annexes comme la communication, les ressources humaines ou encore la responsabilité sociale de l'entreprise.
Ce qui fonctionne en la matière, en fait, Maud, c'est la contrainte. Les quotas dans les conseils d'administration ont été efficaces. Du coup, le système va être étendu à ces comités exécutifs.
Oui, exactement. Il y a un projet de loi qui devrait voir le jour au printemps. Reste encore à convaincre les patrons qui sont réticents à des quotas ambitieux. Et puis, il y a aussi le mentoring, le coaching. Ça, c'est ce que fait Anne-Sophie Pavel, présidente de l'association Elle Bouge.
Des mentors, qui peuvent être des femmes ou des hommes, vont mentorer des plus jeunes pour leur donner les codes et pour les aider à évoluer plus vite. On a quand même de plus en plus de femmes qui montent les échelons grâce à ces conseils, parce qu'ils ont pris de l'assurance, etc.
Et d'ailleurs, les entreprises où les femmes sont mieux représentées dans les instances dirigeantes sont plus performantes.
Ben oui, il n'y a pas photo. Ça, c'est ce que nous dit Michel Ferrari, chercheur à l'Université de Genève. Il a justement mesuré l'impact des femmes dirigeantes sur la performance des entreprises.
Si vous aviez investi dans le CAC 40 entre 2007 et 2019, votre portefeuille y perd 16%. Si vous investissez dans les 10 entreprises du CAC 60 qui ont le plus de femmes dans leur encadrement, votre portefeuille sur la même période, il gagne 134%.
Alors ça s'explique en partie parce que les femmes qui arrivent à ces postes importants de direction sont très rares, donc il y a une sélection drastique, donc ce sont forcément les meilleurs des meilleurs. Chez les hommes, il y a un vivier beaucoup plus large, donc il y a aussi évidemment d'excellents profils, mais il y a aussi des moins bons.
Alors, les vertus de la présence des femmes à la tête des entreprises, c'était le dossier de Maud Descamps pour Europe 1. En attendant, on est encore loin des ambitions de Beyoncé. Le monde, les femmes, disait Beyoncé en 2011. On va finir par y arriver.
Et on va reparler dans le journal de 8h tout à l'heure avec Anne-Sophie Panseri, présidente nationale des femmes chefs d'entreprise. La question de la coercition ou alors du mentoring. Et puis les résultats quand même impressionnants, ce sont qu'on vient d'entendre sur les résultats de ces entreprises qui ont laissé une meilleure place aux femmes. Merci Maud Descamps. C'est un classement aux résultats pour le moins étonnant qui a été dévoilé hier. L'ONG Tax Justice Network a publié la liste des États pratiquant le secret bancaire. C'est votre éclairage éco, Daniel Fortin, bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis et le Royaume-Uni s'y trouvent en bonne place.
Oui, en tout cas, ce sont eux qui ont le plus accru leur offre de services financiers dits opaques, plus 26% pour le Royaume-Uni, plus 15% pour les États-Unis. Une tendance qui va totalement à rebours de la lutte menée par les institutions internationales contre le blanchiment d'argent ou les paradis fiscaux. Alors, qu'est-ce qu'un service financier opaque? Eh bien, ça recouvre beaucoup de choses. Ce sont des sociétés écrans, ce sont des comptes offshore, c'est un secret bancaire particulièrement bien gardé, ce sont des fondations privées aux donateurs anonymes, bref, c'est tout un environnement financier qui favorise soit le blanchiment d'argent, soit la dissimulation de revenus. Ce que montre en tout cas ce classement, c'est qu'il est très difficile de faire reculer ces techniques d'optimisation de son argent.
Et le cas du Royaume-Uni, Daniel, est en fait aujourd'hui le plus préoccupant. Hein.
Alors en effet, le classement pointe très clairement le poids pris par les territoires sous contrôle britannique dans la galaxie mondiale de l'opacité financière. Exemple, les îles Caïmans en tête du classement, ou les îles Vierges qui pointent à la 9e place. Or, vous savez que le Brexit alimente depuis plusieurs mois une psychose, celle de voir Londres et ses satellites se transformer en véritable place financière offshore qui attirerait massivement les capitaux en n'étant pas trop regardante sur les règles. Si c'est vraiment leur intention, les Britanniques ont en tout cas une bonne base de départ pour passer à l'acte.
C'était l'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Merci.
Et votre journal se poursuit avec, dans un instant, Europe 1 en Iran à l'approche des élections législatives.
On ne peut pas dire que nous assistons à une vraie élection.
Notre envoyé spécial à Téhéran dans deux minutes. Mais d'abord, nous sommes aux États-Unis, le début des délibérations dans le procès d'Harvey Weinstein.
Oui, après trois semaines d'audience, les 12 jurés devront dire si l'ancien producteur de cinéma est coupable de viol et d'agression sexuelle avec un comportement de prédateur comme circonstance aggravante. Les précisions du correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Benoît Clerc.
Les 12 jurés, 7 hommes et 5 femmes, ont délibéré hier pendant plus de 5 heures, demandant au juge des explications multiples avant de se séparer sans s'être mis d'accord sur la culpabilité ou l'innocence du producteur. Leurs délibérations reprendront ce matin. Avec 5 chefs d'accusation portés par 2 victimes, plus les témoignages de 4 autres femmes contre lui, Weinstein risque entre 25 ans et la prison à perpétuité. Mais il a choisi pour sa défense une femme, ténor du barreau de New York, qui n'a cessé de mettre à mal la défense des victimes en les accusant de faux témoignages et en soutenant la thèse de relations sexuelles consenties. Quel que soit le verdict qui tombera ici à New York, l'homme le plus connu d'Hollywood pendant plus de 3 décennies n'en a pas pour autant fini avec la justice. Les procureurs de Los Angeles l'ont également inculpé dans 2 autres affaires de viol avec violence pour lesquelles il encourt une peine maximum de 75 ans de détention. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Après les tensions des dernières semaines avec les États-Unis, après le crash d'un avion ukrainien à Téhéran, les Iraniens s'apprêtent à voter. Élection législative vendredi, un scrutin sur lequel le régime veut imprimer sa marque, comme a pu le constater l'envoyé spécial d'Europe 1 en Iran, Jean-Sébastien Soldaini.
Bien installé au Parlement depuis 4 ans, Alireza Rahimi imaginait concourir pour un deuxième mandat, mais sa candidature, comme celle de 40 députés de son camp, a été invalidée à quelques jours du scrutin.
C'est incroyable d'être dans une telle situation. Ils n'expliquent même pas leur décision, donc je n'ai aucun moyen pour la contester. La seule raison que je trouve est politique. Et bien sûr, tout cela va avoir un effet négatif sur l'atmosphère politique du pays.
Même si des candidats conservateurs sont écartés pour corruption, la majorité des 7000 rejets touche les réformistes. Pas de quoi inciter ce jeune ingénieur à aller voter.
Lorsqu'un groupe de 12 personnes, dont certaines sont désignées par le guide suprême lui-même, décide pour qui les gens peuvent voter ou non, on ne peut pas dire que nous assistons à une vraie élection.
Un contexte qui laisse présager d'une forte abstention chez des Iraniens déjà désabusés, ceux qui considéraient déjà le régime comme une démocratie largement amoindrie. Téhéran, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
L'Iran, où les deux universitaires détenus depuis le mois de juin et accusés de crimes contre la sécurité nationale de l'État seront jugés à partir du 3 mars prochain, c'est ce qu'a indiqué hier soir leur avocat.
Europe 1, il est 7h15.
Écoutez bien, parce que ce sera une première mondiale. La réimplantation sur un patient humain de peau imprimé en 3D. L'hôpital de la Conception à Marseille vient de passer un partenariat avec une start-up girondine.
Qui a mis au point cette technique utilisée jusqu'à présent in vitro. Bientôt, donc, ce sont les malades soignés à l'hôpital qui vont en bénéficier. Reportage de Nathalie Chevance pour Europe 1.
C'est une imprimante qui a la taille d'une petite armoire bourrée d'informatique avec une multitude d'écrans pour visualiser les cellules. Celles prélevées sur le patient à partir d'un minuscule bout de peau préparé, cultivé en laboratoire puis replacé dans la machine. Un mois plus tard, c'est un échantillon de 40 cm² qui ressort. Florence Sabatier, responsable de l'unité de thérapie cellulaire à la PHM.
On charge, si vous voulez, l'imprimante avec ces cellules, qui les met dans une sorte d'encre. Cette encre, elle est faite essentiellement avec du collagène. Et ensuite, l'imprimante les assemble couche par couche de manière très précise pour faire une peau qui ressemble le plus possible à la peau normale. C'est une étape très importante dans le domaine de la régénération des tissus parce que c'est une des technologies les plus puissantes qui soient.
Et pour la première fois dans quelques mois, des patients vont donc pouvoir en bénéficier, notamment les grands brûlés soignés par le professeur Casanova.
Il y a 10 ans, on n'envisageait même pas ça. Cette technique est celle qui pourra certainement nous donner la peau la plus proche en termes de constitution et d'architecture et d'agencement cellulaire de la peau humaine. Et c'est notre espoir, bien sûr, c'est une révolution.
Et après la peau, la bio-imprimante pourrait très bien fabriquer d'autres organes, comme des vaisseaux, du cartilage. C'est l'espoir des médecins. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Espoir partagé, évidemment, cette innovation, cette première. On va suivre ça avec Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1. Merci Marion Calais. C'était le journal de 7h, un nouveau journal à 7h30 avec Marguerite Lefebvre. 7h17.